Bonjour et bonne année à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors, on va se mettre en route pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes. Et on va parler des Vikings. Alors justement, quand on évoque les Vikings, deux images viennent immédiatement à l'esprit. D'une part, celle de guerriers pillards, invincibles, assoiffés d'or, et également de marins hors du commun. Alors, à l'origine, d'où viennent-ils ces fameux Vikings? Mystère. On sait juste que c'est un peuple indo-européen, mais les circonstances qui l'ont poussé à migrer vers l'Europe du Nord restent toujours discutées par les historiens. Là, on n'a pas encore beaucoup de renseignements. Et c'est en grande partie par les fameux sagas que les historiens donc ont pu reconstituer l'histoire de la civilisation viking. En effet, les vikings n'ont quasiment pas laissé de traces écrites. Ils avaient une écriture, ce qu'on appelle le futhark, mais c'était pas de grands écrivains. Et alors de plus, l'histoire des vikings est une histoire brève, environ 2 siècles. C'est passé très vite. Elle commence dans les premières années du 9e siècle pour s'achever en tant que telle vers le milieu du 11e siècle. Alors c'est une histoire fulgurante qui laissera des traces profondes dans l'imaginaire des peuples d'Europe, une histoire encore aujourd'hui chargée de tous les fantasmes que ces gens du Nord ont souvent, et malgré eux, pu susciter. Alors revenons aux sagas. C'est un mot d'ancien norrois qui signifie un dit, un conte. Il est issu d'une racine indo-européenne que l'on retrouve en allemand sous la forme sagen, mais également dans le verbe anglais que tout le monde connaît, bien sûr, to say, dire. La saga est l'histoire d'une famille, sur certains points exacts, mais le plus souvent une histoire excessivement enjolivée. Et en fait, ces poésies épiques ont été rédigées entre le XIIe et le XIVe siècle, soit environ 2 siècles après l'âge viking. Donc, ce ne sont pas les vikings qui ont écrit leur propre saga. Pour commencer, alors on va continuer à s'amuser un petit peu. Donc, pour commencer, le mot viking, ce n'est pas un mot viking. Ces peuples scandinaves, selon l'endroit où ils se trouvent, prennent le nom soit de Vareg, quand ils étaient en particulier en train de naviguer sur la Volga, donc en Russie, de Rus, puisque Russie vient d'une tribu des Russes, une tribu viking, ou encore de Northman, qui a donné, évidemment, tout le monde le sait, le nom normand, Normandie. Alors, quant à l'appellation viking, elle vient du latin. C'est vicus, et vicus désigne à la fois un village, un comptoir commercial, mais également un domaine agricole, un quartier d'une ville, un gros bourg, et par extension, tout ce qui compose donc ce fameux domaine agricole, donc depuis les propriétaires, les gens qui y habitent, jusqu'aux domestiques, aux esclaves, bien sûr, puisqu'il y en avait, en passant par les ateliers, les magasins, donc les artisans, les commerçants, et le cheptel animal, à l'instar de la villa romaine. Alors, la disposition du vicus ressemble en tout, du vicus viking, si je puis dire, ressemble en tout point à celui d'un camp militaire romain. Il forme un vaste cercle partagé en 4 par 2 rues principales qui se coupent au centre à angle droit, ce qu'on appelle à Rome le cardo, et qui délimite 4 quartiers orientés respectivement au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Alors cet urbanisme a donné des patronymes toujours bien vivants aujourd'hui en Scandinavie, et il suffit pour s'en convaincre, et moi j'ai fait l'expérience donc quand j'étais en Norvège, donc de consulter les annuaires téléphoniques de ces pays scandinaves pour trouver des noms de famille comme Vesterus, qui veut dire maison de l'ouest, Österus, maison de l'est, ainsi de suite, et nord et sud. Alors, c'était des cavaliers et des marins exceptionnels et opportunistes. Et les Vikings ont mis à profit la dislocation de l'empire de Charlemagne, donc on sait que l'empereur est mort en l'an 814, pour mener des raids éclairs au moyen de leurs incomparables bateaux. Ah, que seraient les Vikings sans leurs bateaux? On pense évidemment au fameux drakkar. Alors là encore, on va commencer par tordre le cou à ce terme erroné de drakkar qu'il convient vraiment de proscrire. Drakkar, en fait, est une appellation née en France vers le milieu du 19e siècle, en pleine période romantique. Un néologisme forgé à partir du mot drak, en anglais drake, qui veut dire dragon. Mais jamais au grand jamais, les Vikings ont appelé leurs bateaux des drakkar. Et encore une fois, quand on est en Norvège et qu'on a le malheur de dire drakkar, on se fait sérieusement remballé. Alors très vite, on s'aperçoit qu'il vaut mieux reformuler sa demande, évidemment. Et en fait, les Vikings utilisaient plusieurs embarcations différentes, tels que les skais, d'une longueur de 16 mètres. Alors, c'était grand quand même. Hein. Et sur une largeur d'un peu plus de 4 mètres, les carfis, les long skips, qui veut dire les bateaux longs, au profil effilé, long de 28 mètres cette fois, et large de 5 mètres, ou encore les skutas. Mais le bateau viking par excellence, le bateau à tout faire, à la fois embarcation de commerce, cargo, et de guerre, c'est le Knurr. C'est un bateau souple, résistant, mais c'est aussi un bateau léger. Alors, c'est celui-là qu'on a, c'est l'image du bateau viking que l'on a, enfin ce qu'on appelle le drakkar, hélas. Et une qualité primordiale pour ces commerçants qui pratiquent le cabotage maritime et savent utiliser les fleuves et les rivières pour voyager, évidemment, c'est que ce drakkar, a un poids relativement modeste et il peut être tiré sur la terre ferme et déplacé au moyen de rondins de bois s'il est changé ou même transporté à dos d'homme s'il est vide. Alors dans sa chronique écrite au 9e siècle, intitulée « Le siège de Paris » par les Normands, ville avec l'ombre qu'entre parenthèses les Vikings n'ont jamais réussi à prendre, Abon, c'est de la baie de, le nom de la baie de Fleury, qui est aujourd'hui Fleury, c'est Saint-Benoît-sur-Loire, décrit en ces termes un raid viking. Alors il dit, ce sont des blessures sanglantes, des pillages au cours desquels on s'arrache tout, de sombres meurtres, des flammes dévorantes, une frénésie partout pareille, il renverse, il dépouille, il tue, il brûle, il ravage, cortes sinistres, phalanges funestes. Mon Dieu. En fait, bon, les Vikings étaient avant tout des commerçants, on dira au sens large, car parfois leurs négociations commerciales se réglaient au moyen de leurs redoutables épées en fer au double tranchant. L'acier scandinave, il est connu, toujours actuellement. Commerçants, bien sûr, mais également, on le voit, des spécialistes de la guerre psychologique, flanquer la pétoche à tout le monde. Et les deux produits principaux qu'ils exportaient dans l'ensemble du bassin méditerranéen étaient l'ambre, donc l'électrum des anciens, cette résine fossile qu'on trouve particulièrement abondante sur les côtes de la mer Baltique, et qui faisait l'objet depuis la haute antiquité d'un commerce intense entre la Scandinavie, et ceci jusqu'à l'Égypte, et enfin la stéatite, qu'on appelle aussi la craie de Briançon, qui est un minéral d'apparence identique à celle du talc et qui était en particulier beaucoup utilisé par les Romains. Alors si leur coup de main sur des objectifs isolés ou peu défendus comme les églises de village, les abbatiales ou les monastères étaient généralement couronnés de succès, jamais, absolument jamais, les Vikings remportèrent une bataille rangée en rase campagne. En revanche, leur technique de pillage était bien rodée. Ils débarquaient d'un ou de plusieurs bateaux. Ce ne sont jamais de grandes flottes en fait qui accomplissent en vitesse et ces coups de main. Et donc, ils débarquaient sur leurs petits chevaux qu'ils avaient emmenés avec eux dans les bateaux. Et la razzia faite, ils rembarquaient chevaux et butins et se tiraient sans laisser de traces, assuraient qu'ils ne seraient ni poursuivis ni punis. Et quand Alfred le Grand, roi de Wessex en Angleterre, décidera de protéger les côtes de son royaume au moyen d'un dispositif de fortin, les Vikings n'insisteront pas, hein, pas folles les guêpes, et choisiront d'autres terrains de pillage en disant « Bon, Alfred, c'est un gros costaud, bon, on va pas s'y frotter. » Et pourtant, l'image qu'ils donnèrent est apocalyptique. On raconte que dans les fleuves, que les fleuves débordaient en raison du nombre de cadavres qu'ils jetaient dedans, et c'est bien mal les connaître. Bien sûr, leur raid ne se faisait pas avec des pétales de violette, c'est vrai. En fait, les gens qu'ils capturaient étaient une marchandise précieuse à laquelle ils tenaient et qu'ils revendaient comme esclaves sur les marchés de la Méditerranée orientale et en particulier à Byzance. Rien à voir avec l'extermination de populations entières que perpétuaient vers la même époque d'autres peuples, en particulier les Hongrois. Ceux-là, ils étaient quand même un peu moins rigolos et tout le monde en avait vraiment très peur. Les chroniques arabes se montrent plus mesurées sur la cruauté supposée des Vikings, comme la chronique d'Ibn Sadlamin qui a recueilli des récits de voyageurs, ou celle qui est très intéressante de la première main du géographe irakien Ibn Fallan, qui au début du Xe siècle conduisit à la demande du calife de Bagdad une ambassade chez les Bulgares de la Volga et put à cette occasion prendre contact avec les Vikings. Alors on va s'accorder maintenant une pause musicale avec John Baez et Jeffrey Sterlief, Drugstore Truck Driving Man.
He's a drugstore truck driving man, and he's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's been like a father to me. He's like the only DJ you can hear after three. And I'm an all-night singer in a country band. And if he don't like me, he don't understand.
He's a drugstore truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan.
when summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's got him a house on the hill, and he can play country records till you've had your fill. And he's a lawman's friend, he's an all-night DJ. Sure don't think much like the records he plays.
He's a drugstore truck driving man.
He's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He don't like resistance, I know. And he said it last night on a big TV show. He's got him a medal that he won in the war. Weighs 500 pounds and it sleeps by the door.
He's a drugstore truck driving man.
He's the head of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. We'll be lucky to get out of town.
The regular guys, Nicky Hopkins.
Good morning, people.
Alors pour fêter l'année 2014, après John Baez, une Volunteers de Jefferson Airplane, toujours enregistrée au Festival de Woodstock il y a pas mal d'années. Alors le cheval a toujours joué un rôle central dans la culture indo-européenne et les Vikings, comme les autres peuples issus de ce même berceau, en sont fortement imprégnés. On trouve l'animal décrit dans de nombreuses sagas, on l'a vu, mais également représenté gravé sur des pierres comme celle de Hagby en Suède. qui daterait du 6e siècle, donc un petit peu avant l'ère officielle des Vikings. Donc, avec le bateau, le poney viking est l'auxiliaire indispensable pour mener des raids marchands ou guerriers. Et ce cheval reste avant tout un animal de ferme, d'abord, utilisé aussi bien pour les travaux agricoles que pour les transports de marchandises. Il est monté, n'oublions pas que les Vikings sont d'excellents cavaliers, mais également attelés à des chariots à quatre roues pendant la belle saison, ou encore tirant des traîneaux durant l'interminable hiver scandinave. Assez curieusement, le chariot est tiré par un ou deux chevaux au moyen de colliers munis chacun de deux traits fixes, fixés directement sur l'essieu des roues, alors que le traîneau lui-même dispose d'un timon de part et d'autre duquel les animaux sont attachés. Et dans les deux cas, l'attelage est mené par un cocher monté sur l'un des deux chevaux, une technique de menage qu'utiliseront pendant des siècles ce que l'on appelle les postillons. On a tous vu des gravures ou des tableaux avec le postillon monté sur le cheval avec deux chevaux devant lui et la voiture accrochée derrière. Alors, les Vikings aimaient aussi organiser des combats de chevaux. N'oublions pas que ces animaux étaient gardés entiers, les mâles évidemment, donc non castrés. Peut-être même étaient-ils dressés à se battre. Alors ça, les historiens discutent encore de cette chose, mais il semblerait quand même. Alors, des paris étaient pris. Chaque propriétaire excitait son cheval à grands coups de gourdin, et la fête dégénérait souvent en mêlée générale dans laquelle aussi bien les hommes que les bêtes se battaient réciproquement et se flanquaient de solides roustes. Alors il est difficile de savoir si ces combats avaient à l'origine un caractère sacré. Les rares textes vikings disponibles restent muets là-dessus. En revanche, les historiens ont retrouvé de nombreux écrits qui témoignent de la passion que les vikings portaient à leurs chevaux, même si dans ce dernier cas, ces grandes batailles rangées, cette passion s'exprimait d'une façon, comme on pourrait dire, un peu rude. Le cheval viking était de petite taille. On le classerait aujourd'hui dans la catégorie des poneys, à l'instar du poney fjord, dont il avait les caractéristiques dites archaïques. Alors, on connaît tous les chevaux avec les belles crinières qui tombent, etc. Ben non, lui, il avait une crinière en brosse, naturellement, et une raie de mulet depuis la base du garrot jusqu'à la naissance de la queue. Alors, la raie de mulet, c'est sur des chevaux archaïques, évidemment sur les ânes, cette bande sombre qui court depuis le garrot, donc les épaules du cheval, jusqu'à la croupe et jusqu'à la queue. Voilà. Un animal peu exigeant, rustique, aux pieds très sûrs, on verra pourquoi, et en un mot, idéal pour les longues expéditions militaires et commerciales. Parce que ce cheval était également à l'aise en mer, puisqu'il pouvait être embarqué. Il était alors transporté debout quand les eaux étaient calmes, ou entravé et couché quand la mer était agitée. Il pouvait recevoir sans trop se fâcher des paquets d'eau glacée sur les flancs pendant des jours et des jours, comme les hommes eux-mêmes du reste qui passaient leur temps à écoper. Parce qu'il faut savoir que les bateaux scandinaves n'étaient pas pontés. Ça devait être un drôle de truc, ça, à la fois ramer et puis vider l'eau qui se déversait sans cesse dans le bateau. Enfin, c'est vraiment bon. Et un véritable exploit, en tout cas, quand on sait que ces poneys ont accompagné leur maître de Norvège jusqu'en Islande, qui est quand même une sacrée traversée sur des mers qui sont pas faciles. Alors, cette façon de faire a été brodée, on le voit donc, par la reine Mathilde sur sa fameuse tapisserie exposée à Bayeux, qui montre le duc de Normandie Guillaume le Conquérant, dit Guillaume le Bâtard, embarquer de cette manière ses chevaux pour aller en Angleterre livrer la bataille d'Hastings, que du reste il gagnera. On comprend que de tels gaillards montés sur de tels chevaux aient flanqué au tournant de l'an 1000 une frousse terrible aux populations d'Europe. Alors, à lire et en savoir plus, Atlas des Vikings, la route du commerce et de la guerre de John Heywood aux éditions Autrement, la vie quotidienne des Vikings que je recommande particulièrement, l'historien Régis Boyer, c'est chez Hachette, toujours de Régis Boyer, professeur au Collège de France, donc les Vikings aux éditions Le Cavalier Bleu, l'Europe des Vikings de Claudine Glo, Michel Lebris du Centre culturel de l'abbaye de Daoulas aux éditions Ebec, les Celtes, les Germains et les Vikings de Roberta Giannada, aussi un très très bon bouquin dans la collection Guide des Arts aux éditions Hazan, et bien sûr l'incontournable Astérix et les Normands de Goscinny et Uderzo aux éditions Dargo, et enfin un film, alors qu'il y a un petit peu vieilli, mais qu'on regarde toujours avec plaisir, c'est Les Vikings, donc, de Richard Fleischer, avec Kirk Douglas, Janet Leigh et Tony Curtis. Et, cerise sur le gâteau, tous ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque de Rodez. Alors maintenant, on va découvrir rapidement un cheval sympathique. Et donc, voilà, c'est dans les dernières décennies du XVIIe siècle, le duc de Newcastle décrit qui était un grand cavalier, un anglais, décrit le cheval du midi en ces termes, on l'appelait le cheval du midi. Les exemplaires de cette race sont les plus nobles chevaux du monde, car de la pointe aux oreilles jusqu'au sabot de derrière, tout est beau en eux. Ni si léger que le barbe, ni si lourd que le napolitain, résistant, courageux et intelligent, aisé à dresser, ils brillent encore par de superbes allures. Leur pas, leur trot et leur galop ne laissent rien à désirer. Quand même un sacré hommage à l'élevage équin français de la part d'un cavalier anglais. Alors quand Napoléon rétablit l'administration des haras qui avait été supprimée par la Révolution française, il opta pour le cheval de pur sang arabe, on sait que l'empereur montait sur des pur sang arabes, et envoya de nombreux étalons à Tarbes. Mais les guerres que l'empereur mena à travers toute l'Europe vident à la France de la quasi-totalité de son cheptel équin. Et pas rien que la France, mais une bonne partie de l'Europe. On trouvait pratiquement plus de chevaux en France. Tout restait donc à refaire. Alors les haras se lancèrent alors dans une série de croisements de façon un peu empirique, en privilégiant le pur sang anglais et le pur sang oriental. C'est ainsi que fut créé le cheval anglo-arabe. Il s'appelait pas encore anglo-arabe. Alors dans les premiers temps, ce nouveau cheval présentait pas mal de défauts et son hérédité était instable. Alors souvent de trop petite taille, il était fragile et son caractère peureux, voire caractériel, semblait cumuler les défauts du pur sang et du pur sang oriental. Le cheval, ce qu'on appelle le cheval de pur sang arabe. Alors consciente de cette impasse, l'administration française des haras mit par la suite en place, après la Première Guerre mondiale, une politique d'achat des talons orientaux originaires de Syrie. Moi, je les ai vus, et effectivement, ils sont un petit peu plus lourds, un petit peu plus charpentés, par exemple, que les purs sangs de Jordanie. Le succès fut au rendez-vous, d'autant que les vétérinaires des haras avaient constaté que la méthode qui donnait les meilleurs résultats consistait à croiser alternativement des souches arabes et des souches anglaises. Voilà. Et la race anglo-arabe, enfin fixée, pouvait se reproduire elle-même et prit donc le nom de pur sang anglo-arabe. Alors, le dicton de la semaine, j'ai le plaisir de dire qu'il est de Jean-Yves Bonnet, je le trouve formidable, il le dit souvent, c'est un dicton et c'est un conseil, et Jean-Yves dit, quand il mène une reprise aux cavaliers et aux cavaliers, il dit « à cheval, tiens-toi droit et souris ». Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Et vous pouvez bien sûr écouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique « Le messager du cheval ». Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao !